En Israël, c'est la fin de la chrétienté. Alors vous comprenez pourquoi ils hésitent tellement à reconnaître Israël. Mais ils sont obligés pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont des intérêts politiques en Israël. Le Vatican a énormément de possessions en Eretz Israël qui viennent du temps. Ils ont énormément de terrains, d'églises et de ce qu'ils appellent leur lieu saint. Et ils ont besoin de trouver le moyen d'avoir un statut de ces possessions chrétiennes en Israël. Et pour ça, il faut qu'ils négocient avec l'État d'Israël. Et pour négocier avec l'État d'Israël, il faut qu'ils reconnaissent l'État d'Israël. Et c'est très lent, c'est très compliqué, c'est en cours depuis des années. Mais depuis quelques mois, le Vatican a décidé de rendre ça officiel. Et tout porte à croire que d'ici quelques mois, un accord sera signé. La deuxième raison, c'est qu'il est possible qu'il y ait un accord de paix avec les Arabes, sous quelque forme que ce soit, et l'Église n'a pas intérêt à rester en dehors de l'ensemble des nations du monde qui participent à la garantie de cet accord. Vous avez remarqué que le monde entier est en négociation avec Israël sur le statut d'Eretz Israël. Il y a toute une série de réunions bilatérale et multilatérale, où toutes les nations du monde sont représentées. Vous suivez cela, j'espère. Or, pour cela, Israël avait mis une condition que des pays comme le Japon, la Chine, l'Inde, le Maroc, ce que je sais, tiennent à être présents dans les discussions sur l'avenir d'Eretz Israël, à une condition, c'est qu'on reconnaisse l'État d'Israël. Et c'est pourquoi toutes ces grandes puissances, la Chine, l'Inde, toutes les républiques islamiques de l'ancienne URSS, une après l'autre reconnaissent l'État d'Israël. La seule puissance au monde qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, à part les pays arabes en guerre, c'est le Vatican. Alors le Vatican s'est mis dans une position ridicule. Il est le seul État chrétien qui ne reconnaît pas Israël. Alors il est obligé de finir par reconnaître Israël. Et ce sera la fin de la chrétienté. Vous êtes encore assez jeune pour voir ça de votre vie. Quand ça arrivera, vous vous rappellerez de ce que vous avez appris à ce sujet. Je veux dire, ils ont mis le doigt dans l'engrenage, maintenant c'est fini. Et ça se discute à la loupe au Misra d'Arhout ici, à Jérusalem, avec les délégations de l'Église catholique. Et ça finira par continuer avec les protestants, avec les orthodoxes, les anglicans, avec tous les autres. Et lorsqu'il y aura une reconnaissance d'Israël par le monde chrétien, ce sera la fin de la rivalité de l'Église contre le peuple juif. Alors ce que je vous décris là va prendre du temps, mais c'est déjà engagé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le lit dans le texte. C'est-à-dire, le texte nous montre cela. Il y a un stade d'un premier demi-repentir d'Ésaü qui va se ressourcer dans le monothéisme musulman. Il va chez Ishmaël prendre une fille d'Ishmaël. Vous voyez comment la Torah est très précise de ce qui est arrivé dans l'histoire. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, Ésaü reconnaisse Israël et on est dans les temps où ça va peut-être se faire assez rapidement. Alors, dans tous les cas, c'est pas ça qu'on va étudier en détail, ça va nous faire comprendre pourquoi le texte va changer de terme pour dire où va Jacob lorsqu'il s'enfuit de Beersheba, où se trouvait la famille d'Isaac. Alors prenez le verset suivant. Vayetse Yaakov de Beersheba, vayelech Harana. Vous voyez ? Et Jacob sortit de Beersheba et il partit à Haran. Alors que dans le texte précédent, Isaac l'envoie pas dans Aram, voilà que la Torah nous dit qu'en fait il est allé à Haran. Alors ça veut dire qu'entre-temps, la destination de Jacob change de motivation. Parti pour prendre femme chez Laban, il va être obligé d'aller non pas à Padan Aram prendre femme seulement, mais à Haran se mettre à l'abri de la colère d'Ésaü. Voilà comment le Midrash l'explique. Ce demi-repentir d'Ésaü va donner du mérite à Ésaü, et il faut donc que Jacob se protège contre la prétention d'Ésaü de réclamer Eretz Israël. Vous voyez, il devait aller à Padan Aram, Mais entre-temps, Ésaü a fait un demi-repentir. C'est pourquoi je vous ai traduit tous ces versets. Alors c'est finalement Haran qui va aller. Je voudrais qu'on apprenne maintenant deux choses. J'espère qu'on aura le temps jusqu'à une heure. On va revenir sur le verset que je vous ai signalé tout à l'heure. Pourquoi la Torah nous rappelle que Rivka est la mère de Jacob et Ésaü. Et ensuite, on va prendre un verset dans la vision de Jacob. Quelle heure il est ? Hein ? Et vous avez cours jusqu'à quelle heure ?
Une heure.
Une heure. Attendez, on a commencé à 10h30. 11h30, 1h. On sort à travers 1h moins quart. Une minute, je finis ce que je suis en train de dire. Tu m'as fait oublier. Le deuxième verset qu'on va étudier, c'est ce que je voudrais compléter du cours de la semaine dernière, que Jacob, comme Jacob, ne veut pas recevoir la bénédiction qui était prévue pour Ésaü. Vous vous rappelez de ça? C'est Israël qui en est capable, mais pas encore Jacob. Alors ça, nous aurons un deuxième verset. Qu'est-ce que tu veux demander? Plus fort. Plus fort, je n'entends pas.
J'ai une question sur ce que vous avez dit sur la chrétienté.
Oui.
Vous avez dit que la fin de la chrétienté, c'est la conséquence de la reconnaissance de l'Israël par le Vatican.
Et alors, quelle est ta question?
Qu'est-ce que ça veut dire la fin de la chrétienté? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire?
Voilà, c'est toi qui le formule comme ça. Je dis ceci. Le fait que, pour le moment, il s'agit du Vatican. Que le Vatican reconnaît tout à l'Israël, ça finira par le mener à reconnaître que c'est le peuple juif qui est Israël. Et si la chrétienté reconnaît que le peuple juif est Israël, c'est la fin théologique de la chrétienté. Parce que la chrétienté se base sur le principe que le peuple juif a été disqualifié, qu'il n'a plus la dignité d'être Israël, qu'il y a une nouvelle alliance qui est celle des chrétiens. Alors si les chrétiens reconnaissent que c'est bien les juifs qui sont Israël, ça veut dire que leur théologie n'a plus de base. J'ai dit tout à l'heure, ça prendra du temps, mais c'est en cours. Il y a des résistances terribles dans l'Église, dans les Églises. Il y a un antisémitisme chrétien qui ressurgit à cause de cette crainte d'avoir à avouer un jour que c'est les juifs qui sont Israël et pas les chrétiens. Parce que comme je vous ai dit souvent, Rome, pendant 2000 ans, s'est pris pour Israël. Vous vivez en milieu juif, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point les chrétiens, chez eux, se prennent pour Israël. Quand ils rentrent dans leurs églises, ils prient le Dieu d'Israël. Ils se définissent comme étant le véritable Israël. Les juifs ayant été disqualifiés parce qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Vous avez compris un peu ce que c'est. Si au bout de 2000 ans, ils s'aperçoivent que c'est bien le peuple juif qui est Israël, et ils seront obligés de s'en apercevoir s'ils reconnaissent l'État d'Israël, qui est un État juif et pas un État chrétien. Ça veut dire que leur théologie n'a plus de base. Or, déjà dans les différentes églises, il y a des théologiens chrétiens qui sont en train d'étudier cette question. Sur quoi ils se sont trompés? Puisque la volonté de Dieu fait que, malgré leurs efforts, et au bout de 2000 ans, le peuple juif existe encore. Et non seulement le peuple juif existe, mais c'est lui qui devient l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de l'événement pour la conscience chrétienne. Ils sont obligés de reconnaître que c'est les juifs qui sont Israël. Israël dont parle la Bible. Alors c'est pourquoi il y avait cette résistance à reconnaître l'État d'Israël. Mais maintenant qu'ils vont reconnaître l'État d'Israël, ça veut dire qu'ils se préparent à renoncer à être le véritable Israël. Alors qu'est-ce qu'ils seront? Si les Juifs sont Israël, il n'y a qu'une réponse possible, ils deviendront une diaspora d'Israël. Ça prendra du temps, ça ne sera pas simple, et c'est plein de problèmes. Mais c'est le bas. C'est ça que je voulais vous expliquer. Attends, j'ai quelque chose à ajouter. Nous sommes en négociation avec les chrétiens sur ce problème et avec le principe qu'il faut les aider à se sortir d'un problème pour lequel eux n'ont pas de solution. Et c'est un problème très dangereux, ils ne peuvent pas supporter un tel traumatisme. Je donne un exemple. Vous savez tous les efforts que les catholiques font pour annexer Auschwitz et pour faire comme si la Shoah c'était contre l'Église, pas contre les Juifs. Je ne sais pas si vous suivez tout cela. Parce que c'est un scandale pour eux. Il s'avère que le peuple qui a souffert le plus de l'humanité, ce n'est pas les chrétiens, c'est les juifs. Alors ils essayent d'amixer ça. Ils ont essayé, avec les Arabes, d'empêcher Israël d'exister. Et ce n'est pas possible. Alors finalement, ils sont obligés de s'avouer que Dieu a décidé que c'est les juifs qui sont Israël. Alors eux, c'est quoi? Vous comprenez comment? Et nous n'avons pas intérêt à laisser ce problème sans solution, parce que ça risque de déclencher un antisémitisme encore pire que ce qu'on n'a jamais connu. Et c'est pourquoi l'État d'Israël est en train de prendre de vitesse cet antisémitisme, et il est fort possible que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de votre vie, vous assisterez à ces événements. D'ici pas longtemps, le Vatican va reconnaître l'État d'Israël, il y aura un pape qui va venir en visite, et ensuite il y aura un grand rabbin d'Israël qui sera à Rome. Vous entendrez parler de toutes ces rencontres qui se préparent, et puis un jour, le pape reconnaîtra, c'est les Juifs qui sont Israël. Et ils seront obligés de changer leurs prières, de changer leurs églises, de changer de fond en comble. Alors ça arrangera les affaires de l'État d'Israël, parce que la Macbeth, ça sera chez les chrétiens, c'est-à-dire c'est les chrétiens qui cotiseront pour Israël, qui seront eux la diaspora d'Israël. Oui, je vous raconte des histoires. Mais ça sera très mauvais pour les juifs de diaspora qui vont être pris au piège des églises. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça commence déjà. Ça commence déjà. Les juifs de diaspora, c'est une sorte de communauté de chrétiens de rite juif. Si vous prenez un arrondissement comme le 9e arrondissement à Paris, vous avez des églises où on dit Amen en latin et des synagogues à côté où on dit Amen en hébreu. Mais les deux, c'est des Français de religion d'Israël. Les uns à la manière chrétienne, les autres à la manière juive. Combien de temps ça va durer? Pas longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les rabbins de diaspora sont très inquiets. C'est pourquoi ils viennent faire de temps en temps des pèlerinages ici en disant, vous savez, on a encore juif. Mais pour combien de temps, j'en sais rien. Les devises que les pèlerinages chrétiens font rentrer à l'État d'Israël sont plus nombreuses que les devises des pèlerinages juifs. Mais où ça va? Il y a une ambassade chrétienne à Jérusalem, dont on parle peu, qui représente les églises à Jérusalem. Et toutes les fêtes de Soukhot, ils sont des milliers à venir faire la fête de Soukhot à Jérusalem, et ils apportent avec eux des centaines de milliers de millions de dollars pour l'armée israélienne. Des sommes que les juifs n'envisageraient jamais de rassembler. Pensez bien que tout ce que fait Israël, si ça tenait sur l'argent des juifs, ça n'existerait pas. Et alors ça commence déjà. Vous suivez tout ce que je dis là?
Oui, c'est ça, non? Cette prophétie, c'est quelque part que le jour viendra où ce sera les goyim qui
viendront à Soukhot.
Qui viendront d'argent Israël.
Oui. Parce que vous avez expliqué, monsieur le chanoine.
Bon, mais tout ça, ça prendra du temps. Qu'est-ce que tu veux dire?
Le sort de chanoine.
Qu'est-ce que j'ai dit?
J'ai dit que quoi serait à fauter Fred Hagel, parce que Moshe leur a dit, je vais te mettre chez lui, toi et Kadosh, et Amkonim. C'est-à-dire qu'Israël, ils
ont. Le verset est faux, mais c'est pas grave, continue.
Israël deviendrait les
Kohen
et
les
Goïms deviendraient Israël.
Oui, c'est ce qu'aurait dû être à la sortie d'Égypte. Mais que les Goïms deviendraient Israël, c'est toi qui as dit ça. Hein.
Bon, enfin, je veux dire que.
J'en profite pour répéter. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Chaque fois que vous répétez en changeant quelque chose, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu as compris ça? Tu sais pourquoi je sais ce que j'ai dit? On ne pourra jamais me dire que j'ai dit quelque chose que je n'ai pas dit. Vous avez dû remarquer d'ailleurs. Je sais exactement ce que je dis. Vous savez pas pourquoi? Parce que je ne dis que ce que je sais. Alors je sais ce que je dis. Non, non, c'est pas une blague. Il y a beaucoup de gens qui disent, on pourrait dire que peut-être, plutôt, on a le droit de dire que ce qu'on a appris. Et quand on dit que ce qu'on sait, on sait ce qu'on a dit. Non, je vous dis ça comme une consigne pour vous-même. Okay ? Ne parlez jamais dans des hypothèses. Je me rappelle très souvent des gens de Yeshivot qui venaient poser des questions au Rav, qui disaient, dans leur question, ils ont l'habitude comme ça dans la Yeshivot, peut-être qu'on peut dire que... Et le Rav leur répondait, et sûrement on peut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, peut-être on peut dire que... Vous avez compris, méfiez-vous de ça. Okay ? On ne peut pas dire n'importe quoi. La Torah, c'est une science précise. C'est pourquoi je vous répète souvent, et je vous le répéterai toujours, si vous citez quelque chose que vous avez appris, citez-le exactement comme vous l'avez appris. C'est un orgueil très très inférieur que de faire semblant de modifier. Modifier quoi ? La Torah est écrite comme elle est écrite. Vous avez compris ce que je veux dire ? Une citation, ça doit se faire exactement. On ne cite pas un verset à peu près. C'est clair ? Alors, j'ai remarqué, ceux qui ont déjà étudié dans d'autres écoles, vous avez l'habitude d'interpréter en entendant. Ça t'arrive, toi, souvent. Je ne sais pas où tu as étudié avant. À Yavne. C'est ça que t'a dit ta mère, Yavne. Tu vas pas l'arabe. Bon. Alors, je n'ai pas demandé avec qui, mais enfin, tu comprends qu'il faut citer les choses comme elles sont écrites, sans rien changer. Qu'est-ce que tu veux dire ?
Vous avez dit que pour être chrétien, le peuple juif avait été disqualifié parce qu'il n'avait pas reconnu leur Messie. Leur, c'est-à-dire la Torah, bien sûr, mais c'est le Messie des chrétiens ?
Non, celui que eux. Non, celui que.
Celui que.
Celui que eux reconnaissent comme Messie. C'est pour ça que je dis leur. Mais tu as raison de poser la question. Oui, ça ne veut pas dire non. Il est possible que tu aies lu ou entendu des choses comme ça, qu'on pourrait admettre que leur Messie, c'est le Messie pour eux. C'est faux. Ce que je veux dire, c'est ce que eux croient être le Messie. Si vous étudiez ça une fois, peut-être à la fin de l'année, si on a le temps, vous pouvez étudier ça. Vous verrez que, on étudie ça dans leur livre, à eux, c'est un mythe, leur histoire d'acrobate, comme tu dis. Je vous le montrerai dans leur livre même. Et ils sont en train de découvrir qu'effectivement, qu'ils ont cru dans un mythe. Et c'est très difficile pour eux d'ouvrir les yeux sur ce problème. Je me rappelle, j'ai eu des discussions avec des prêtres de chez eux qui nous ont avoué qu'ils avaient un problème dans leur communauté, dans leurs églises. Énormément de chrétiens qui ont un problème avec le fait que leur Messie est un juif. Comment ils arrivent à croire que leur juif, que leur Dieu est un juif. Ça ne leur passe pas. Mais le jour où ils arriveront à découvrir que c'est un mythe qu'ils se sont racontés, d'ailleurs je vous le montrerai avant la fin de l'année, vous me le demanderez, ça leur fait très mal. Alors, gentiment, doucement, on les aide un peu à lire leur propre livre. Mais il faut leur fournir une solution pour qu'on puisse sortir de cette rivalité qui est très dangereuse pour les Juifs et Israël. Parce que nous sommes une minorité dans un monde qui leur appartient. Le monde est à eux. Et c'est le monde à venir qui est à Jacob. Ce monde-ci, c'est à Ésaü. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en particulier, dans les communautés juives de diaspora, ils vivent chez les chrétiens. Et ils ne s'en rendent pas compte. Ils font comme s'ils ne s'en rendent pas compte. Quand un chrétien dit à un Juif, rentre chez toi, c'est le chrétien qui a raison. Le juif qui lui répond « Non, je suis chez moi, chez toi », ce juif est traître à la Torah. Ce juif n'est pas chez lui, chez le goy. C'est le goy qui est chez lui, chez lui. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire.
Le problème le plus ambigu que ça, parce qu'il y a des juifs qui disent « On sait qu'on n'est pas chez nous, mais on reste quand même puisqu'on attend le Mashiach. » Ils savent qu'ils sont des juifs qui savent qu'ils ne sont pas chez eux.
Mais oui, c'est la plus grande hypocrisie. Parce qu'ils savent aussi que le Mashiach les attend ici, pas là-bas. Il n'aura pas donné rendez-vous à Strasbourg. Et ils le savent. Hein. Et d'ailleurs, ils sont en plein mystère. Et comment ça va se passer ? Le Mashiach va aller à Strasbourg et prendre par la main ? ils sont en plein délire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, maintenant que vous êtes un peu israélien, à quel point les juifs de diaspora sont dans un cauchemar. Mais en plus, je veux dire, c'est ce cauchemar se passe chez les chrétiens. Et si un jour les chrétiens deviennent anti-juifs comme ils le souhaiteraient, ça risque d'être très mauvais pour les juifs. Regardez ce qui se passe en France, il y a déjà des lois xénophobes qui se mettent en place. Ça, si ça s'aggrave, ça risque d'être très, très grave. En plus, il y a une situation économique, paraît-il, très désastreuse. Et finalement, l'agent juif risque d'avoir du travail avec les juifs français, mais il n'y a pas de place pour eux, puisqu'on s'occupe des autres. Bien, alors, il nous reste quand même un peu de temps. On va voir le deuxième verset. Vous allez prendre... dans le début de la paracha de Vayetse, lorsque Jacob se réveille au matin, la nuit il a rêvé, l'échelle de Jacob, lorsqu'il se réveille, voilà le vœu qu'il va prononcer. Alors je vous donne la référence, c'est au chapitre 28. Prenez à partir du verset 16. Vous y êtes, chapitre 28, Kafret, verset 16, c'est Tetzaïn. Alors voilà le sujet qu'on va étudier, je vous l'explique. La bénédiction matérielle, Jacob comme Jacob en a peur. Il va la recevoir quand même, mais il va s'en défendre. Ce n'est que lorsque, encore une fois, que lorsqu'il sera au niveau d'être nommé Israël, qu'il sera capable de la bénédiction matérielle. Nous allons voir deux textes d'ailleurs qui vont démontrer cela. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Parce que j'entends que je ne m'entends pas. Ça va? Alors prenez le verset 16 du chapitre 28. Vaïkat Yaakov Mishenato. Et Jacob se réveilla de son sommeil. Vaïomer, il dit Achem Yeshaché Bamakomazé. Ainsi Dieu était présent dans cet endroit lorsqu'il a eu la vision de l'échelle. Ve'anochi lo yadarti, et moi, je ne le savais pas. Verset 17, Vayera, il eut peur, Vayomar, il dit, Manora makomaze, combien cet endroit est redoutable, Enze, cela n'est que, Ki'im, Bet Elokim, c'est la maison de Dieu, Veze Shahara Shamaim, et c'est la porte du ciel, puisqu'il voit des anges monter et descendre. C'est donc c'est l'endroit de la communication entre le ciel et la terre. Voyage mais Jacob à Boker. Et Jacob se leva de bon matin. Vaïkar et Vaéven, il prit la pierre à Chersam et Rachotar, qu'il avait mis comme oreiller. Vaïassé Motamateva, il en fit une stèle. Vaïtsok Shemer Arosha, et il la recouvrit d'huile, une libation d'huile. Verset 19. Vaïkra et Shema Makoma ou Bethel, et il nomma le nom de cet endroit Bethel, Beoula, mais cependant Luz, Shema Igla Rishona, le nom de cette ville était Luz au début. La ville qui s'appelle Bethel maintenant s'appelait avant le temps de Jacob Luz. Alors, verset 20, Vaïda, Yaakov, Neder, les mots. Et Jacob fit un vœu, un Neder, c'est un vœu. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Quand quelqu'un fait un vœu, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire quelque chose?
Hein? Ou l'un ou l'autre, pas les deux.
Ça veut dire quelque chose? Il s'engage à quelque chose?
À quoi?
À quoi?
Quelle forme? C'est quelle forme d'engagement? Il s'engage à donner quelque chose? Ça s'appelle Nedava. Un vœu, faire un vœu, c'est s'engager à se priver de quelque chose. Un vœu, c'est un vœu d'abstinence. Un neder, c'est un vœu d'abstinence. Une nedava, c'est un vœu de don. Vous avez en hébreu, vous en servirez dans les synagogues, deux mots différents, neder ou nedava. Alors, un vœu, c'est un vœu de se priver de quelque chose. Faites attention à ça. Vaïdor neder, Il fit un vœu. Rémor en disant « Imiye Elohim imadi » « Si Dieu est avec moi »« Ushmarani baderechazé » et qu'il me préserve dans ce chemin « Asheranokhi Oler » que je vais prendre. Il va sur le chemin de l'exil, donc c'est un chemin périlleux, et il demande « Si Dieu me protège »« Venatali lechem leichol » et me donne du pain pour manger, « Le béret de l'ilvouche » et un vêtement pour me vêtir, Beshati Beshalom et Betavi, je reviendrai en paix à la maison de mon père, Beaya Hashem Elohim, et Hashem sera pour moi Dieu. Alors on se pose la question à propos de ce verset. Est-ce que Jacob fait un marché en disant à Dieu, si tu me protèges, si tu me ramènes en paix, alors tu seras mon Dieu? Est-ce qu'il s'agit d'un marché? Et en fait, nous allons voir plus en détail, c'est un vœu. Je vais vous relire le texte, vous allez comprendre qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Voilà ce que dit Jacob. Il dit, la bénédiction d'Ésaü, j'en veux pas. Tout ce que je demande, c'est que Dieu me donne du pain pour manger et un vêtement pour me vêtir, et Dieu sera mon Dieu. Et les rabbins ont posé la question suivante. Pourquoi cette répétition? Il est évident que du pain, c'est pour manger. Et un vêtement, c'est pour se vêtir. Une des explications est la suivante. Que Jacob refuse le commerce. Qu'est-ce que c'est que le commerce? Si j'ai du pain, je le vends pour acheter un vêtement. Si j'ai un vêtement, je le vends pour acheter du pain. Alors Jacob dit non. Si j'ai du pain, que ce soit pour manger. Et un vêtement pour m'habiller. Que je n'ai même pas à faire du commerce. Ça peut vous paraître paradoxal. Jacob, le juif de la vocation spirituelle, ne veut même pas la vocation du commerce, alors que ça semble aller ensemble. Vous avez compris ce que je veux dire? Jacob se méfie, il a peur des tâches matérielles. Même le commerce, il le refuse. Il veut simplement être voué à Dieu. Ça, c'est Jacob, la vocation spirituelle. Alors, je vous ai cité ce passage pour vous montrer que Jacob, comme tel, ne veut même pas la bénédiction des aïeux. Elle est imposée. Ce n'est que lorsque Jacob en est capable, il va être Israël. Et inversement, ce n'est que lorsqu'il est capable d'être Israël qu'il peut être capable de cette bénédiction. Encore une fois, j'essaie de vous faire comprendre ceci. Pendant 2000 ans, c'était invraisemblable que des Juifs fassent un État. Les Juifs, c'était voué à la Yeshiva, le ghetto. Et puis voilà que subitement, le peuple juif reçoit le nom d'Israël. Jacob reçoit le nom d'Israël en revenant d'exil. Et ce peuple juif qui a reçu le nom d'Israël, l'État d'Israël, est capable des tâches matérielles d'un État à un niveau qui fait trembler une nation tout entière. En une génération, comme au temps de la sortie d'Égypte. Voilà ce qui se passe dans cet enseignement. Nous allons voir un deuxième verset qui confirme cela. Alors vous comprenez bien la différence d'identité, de profil d'identité entre Jacob, la vocation spirituelle, et Israël, qui est Jacob, ayant aussi la vocation matérielle. Et pourquoi les Juifs de l'exil, du type de Juifs de l'exil, refusent l'État d'Israël à peu près au même niveau que Jacob, qui n'est pas encore capable d'être Israël. J'essaie de vous montrer dans le texte que l'identité de Jacob est réfractaire à ce que j'ai appelé les vocations matérielles, et même, ça c'est un midrash des chassidim que je vous ai cité, même le commerce, ils ne voudraient pas s'en occuper. Aujourd'hui, nos orthodoxes ne font que ça. Ils font du commerce même avec les fonds de commerce des synagogues. C'est une autre histoire. Et cette mentalité du juif spécialiste du commerce, c'est même pas le Jacob de la Bible. Alors, vous allez prendre au retour de Jacob de chez là-bas une confirmation de cela. Prenez le chapitre 32. Chapitre 32. À partir du verset 4. début de la paracha de Vaishnav. De Vaishnav. Je vais vous traduire les versets jusqu'au verset que nous allons un peu approfondir. Vaishnav Yaakov Malachim, et Jacob envoya des envoyés, c'est quand il revient de chez Laban. Les Fanab devant lui, et les Savachim, chez Esaü son frère, ou vers Esaü son frère, Arsa Seir, en direction du pays de Seir, qui est l'endroit où habitait Esaü, c'est des Edom, le champ de Edom. C'est le début de la paracha de Vaishnav. Jiet, Vaitsav Otam Lemur, il les ordonna en disant, Kotomrun Nadoni Lehessav. Ainsi vous direz à mon maître Esaü, Koamar Dechayako, ainsi a dit ton serviteur Jacob, Im Laban Garti, j'ai séjourné chez Laban, Vaechar Avata, j'ai tardé jusque-là. Vaïli Shor Vachamo, et j'ai eu bœuf, âne, tson, veve de chifra, troupeau, serviteur, servante, veeshlecha leagid ladoni, et j'ai envoyé pour raconter à mon Seigneur, l'imsochen veenecha, pour trouver grâce à tes yeux. Alors nous allons lire d'ailleurs Rashi, qui va répondre à la question suivante. Est-ce que Jacob ne va pas exciter plus encore la colère d'Ésaü?